Je crois qu'il vient directement de lycée.
Ne dites plus du mal, c'est enregistré.
Ah,
voilà.
C'est
voilà, oui. Oui, voilà, tout à fait. Mais c'est passé à côté, là, c'est bon.
On peut toujours y couper.
On peut toujours y couper, au montage.
Bien, on va prier. Seigneur, merci pour ce temps ensemble, merci pour ta présence. Merci aussi pour les ministères et les dons que tu donnes à ton Église, aux membres de ton Église. Nous voulons lui consacrer ces moments et aussi la soirée chorale pour que tu puisses nous aider, nous accompagner, nous fortifier. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc, ce soir, on arrive au dernier volet qui sera peut-être un peu plus court que les autres. Nous allons parler de la conclusion. On va parler des illustrations. Et puis, j'aurai une quinzaine de remarques diverses et de dangers divers. Et puis, quelques paroles de conclusion. Donc, la conclusion. Pourquoi faire une conclusion? Déjà, on a parlé de l'introduction. Pourquoi faire une introduction? Comment faire une introduction? Pourquoi faire une conclusion? Vous prêchez.
Ah oui. Appuyer les points clés.
Appuyer des points clés. Oui.
Pour ramener tout le monde vers le. Parce que si toi le plus certain est peut-être un peu sonné, qu'à la fin, il y a des paroles clés par rapport au message qui a été dit, que les gens puissent se retrouver, puissent avoir un résumé de ce qui a été dit.
Oui. Oui.
En fait, comme on retient rarement beaucoup de choses d'un message, au moins qu'on retienne les deux ou trois idées fortes.
Tout à fait. Tout à fait.
Moi, je pense qu'il ne retient pas les 35 minutes.
Mot à mot. Alors, pourquoi faire une conclusion? C'est pour résumer tout ce que tu viens de dire. Hein? Donc, appuyer le point clé, amener tout le monde à l'objectif, si on veut, et aussi rappeler quelques points clés. C'est aussi, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est pour faire savoir aux gens comment ils doivent vivre. Voilà ce que dit la Bible, voilà comment vous devez vivre, si vous préférez, voilà comment nous, on doit vivre. Très souvent, si on peut relâcher notre idée et résumer, quand on prêche, admettons, je prêche dimanche, je vais prêcher, les gens qui m'écoutent vont me dire dans leur cœur, David, tu dis quelque chose, mais et alors? Et maintenant. Et dans la conclusion, quand ils me disent et alors, moi je dis et bientôt. Et je leur fais savoir ce qu'ils doivent faire maintenant. C'est pour vraiment rendre concret ce qu'on dit.
Les aspects pratiques.
Les aspects pratiques, les doctrines ou l'enseignement vraiment sur lequel on veut mettre l'accent.
Le passage, en gros, le passage de la théorie à la pratique.
Oui, quoique tout au long du message, il y a l'application.
Il y a l'application au quotidien.
Il y a des prédicateurs, très peu normalement, qui parlent, qui informent, et puis à la fin, ils disent voilà ce en quoi cela nous concerne. Tandis que d'autres, la plupart, informent et appliquent au fur et à mesure. Mais à la fin, la conclusion, c'est juste pour mettre une dernière couche, si on veut. C'est comme l'appel. Est-ce qu'on lance un appel à la consécration, à la conversion? Bon, ça arrive, mais on peut le faire pendant le message et à la fin du message pour secouer les gens. Pour dire, mais voilà, la repentance, vous repentez-vous, soyez prêts à vous repentir. Donc voilà, bonjour, voilà. Pourquoi faire une conclusion? Et si on fait une conclusion, ça met où d'ailleurs? Et alors, et maintenant, c'est parti de faire savoir comment on doit vivre. Si on fait une conclusion, ça nous permet d'éviter deux phénomènes. Que le message se termine en queue de poisson. ou alors que la conclusion soit comme un cheveu sur le soupe. C'est-à-dire un cheveu sur le soupe, c'est dire quelque chose qui n'a aucun lien avec ce qui vient d'être fait ou dit. Et il faut surtout que la conclusion soit en lien avec ce qui a été dit. Comme je l'ai dit la semaine dernière, l'introduction doit être en lien avec ce qu'on va dire. Mais malheureusement, il y a des gens qui commencent ou terminent une prédication avec une super illustration, une super histoire qui peut durer des heures et des heures, mais l'histoire ou l'illustration n'a aucun lien avec ce qui va suivre ou avec ce qui vient d'être cité à la conclusion. Donc il faut vraiment que ce ne soit pas un cheveu sur le souffle, ni un croissant. Et aussi, la conclusion sert à ce que les gens puissent prendre des décisions ou être convaincus de quelque chose. La dernière fois que Christian a parlé, je pense que la dernière fois, c'était sur le pardon. Et, bon, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, j'ai pensé, mais à qui est-ce que je dois demander? Ou qui est-ce que j'ai offensé? Et l'application est tout le long de ce message. Pardonnez. Et demandez pardon. Mais pardonnez. Vous pouvez, grâce au Seigneur. Une autre chose, et c'est en lien avec ça, c'est donner des croix ruminées. On veut que les personnes réfléchissent à quelque chose. Parfois, ça alimente la discussion à table le dimanche midi. Si on prêche le dimanche matin. Mais les gens doivent partir en sachant qu'ils doivent faire quelque chose. Comment apporter une conclusion à un message? C'est un peu la même chose que comment faire une introduction. Alors on peut le faire avec une question, une illustration, un verset percutant, un challenge, une citation. On peut le faire. Je suis un mauvais prof et un mauvais élève. Mais il faut faire en sorte que la conclusion ne soit pas trop longue. Elle doit être claire, avec du punch, mais comme je disais, tout est convenable. Si la conclusion dure aussi longtemps que le message, bon. Souvent, la conclusion, c'est une des choses qu'on prépare. Comme l'introduction. Parfois, on prépare la conclusion avant de préparer l'introduction. Parce qu'on ne sait pas comment on va introduire le message. Mais une fois que le message est préparé, la conclusion est faite, là, on se dit, ah mais maintenant, je sais comment faire l'introduction. Comme pour l'introduction, on doit faire en sorte qu'on connaisse bien la conclusion. Écrire ou imprimer mot à mot, si nécessaire. Si on rate l'introduction, il va nous parler du temps pour récupérer chaque auditeur avant la fin du message. Si on rate la conclusion, on a raté quelque chose d'important. Donc il faut bien connaître la conclusion. On doit donner, donc, comme je disais, des croix ruminées. Et quand on conclut, on doit à tout prix éviter de dire pour conclure, et puis 5 minutes plus tard, pour terminer, et puis 5 minutes plus tard, maintenant je vais finir, et puis encore,
je vais oublier.
Il y a des gens comme ça, même un grand prédicateur, si j'ai donné son nom, vous l'avez tous entendu il y a quelques années, mais il avait l'habitude de dire pour conclure 36 fois. Enfin, peut-être pas 36 fois, mais bon. Mais quand on conclut, on doit faire en sorte que nous ne qu'on conclue. Quand on conclut aussi, on doit savoir qu'il y a des choses. On doit conclure, mais on doit inclure et on doit exclure. C'est-à-dire, il faut que ce soit assez précis, concis. Donc si on veut avoir une longue conclusion, là, on doit exclure des choses, enlever des choses et la vie. Il y a des choses à inclure et des choses à exclure lorsqu'on fait une conclusion. Je décourage toujours que lorsqu'on conclut, qu'on lise un poème assez long ou une citation. Tout simplement parce que quand on conclut, on veut le contact visuel. Et si encore plus en lisant quelque chose, je ne vais pas vous regarder, vous n'allez pas voir mes yeux. Et si je lis, et puis je dis on va prier, on perd quelque chose. Si vous voulez conclure avec une citation, c'est bien de les coller par cœur ou de mettre sur l'écran, mais bon, il faut garder le contexte visuel à la fin du message. Tout en disant qu'au début du message, il faut garder le contexte visuel. C'est important pour l'orateur et c'est important pour les auditeurs. Comme je disais tout à l'heure, il faut éviter de dire, il faut conclure 36 fois, il faut attirer une fois. Un avion qui a du mal à attirer, ce n'est pas très agréable pour les voyageurs. Et un prédicateur qui a du mal à attirer, ce n'est pas très agréable pour les auditeurs. On peut résumer la conclusion en disant, voilà les frères et sœurs, voilà ce que vous devez faire, recevoir ou croire. Ça peut être un de ces éléments ou les trois. Les gens doivent partir avec quelque chose pour la tête, pour le cœur, pour les mains. Voilà ce que tu dois faire. Je pense à le texte dans Acte 2, Acte 2, le jour de la Pentecôte, quand Pierre prêche. Et les gens ont interpellé la parole comme une épée qui transperce le cœur et ils disent, qu'est-ce que nous devons faire? Et il dit, repentez-vous, soyez baptisés. Mais ils étaient devant ce message qui a duré, je ne sais pas combien de temps, beaucoup de citations bibliques. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Et ça, c'est bien. Et là, je me dis ça, comment donc devrions-nous vivre? C'est une question qui se trouve dans Ézéchiel 33, verset 11. Mais c'est aussi le nom du, je crois bien, du dernier livre de Francis Schaeffer, l'apologète chrétien qui est mort en 1982 ou 3. Et son dernier livre s'appelle « Comment donc devrions-nous vivre ?» basé sur Ézéchiel 33, verset 11. Et c'est un livre pour expliquer aux chrétiens, mais vu le monde dans lequel on est, voilà comment on doit vivre. Et quand on prêche, c'est pour ainsi dire répondre à cette question. Voilà comment vous devez vivre, mes frères. Voilà comment nous, parce qu'on s'inquiète, nous devons vivre après ce message. Il ne faut jamais sous-estimer l'introduction ou la conclusion. Une courte introduction, une courte conclusion et un message qui n'est pas trop long.
Tu peux donner des temps.
Alors, le temps. Quel est le temps idéal pour le dimanche matin? C'est une question très importante.
3-4 jours.
Dis-moi, Stéphane.
Moi, je dirais autour de 30.
Ouais. Je pense qu'il ne faut pas dépasser 30 minutes.
Entre 25 et max 35. Max.
À moins qu'on soit vraiment calculé, vraiment loué, et le temps passe comme ça. Et ça ne coûte pas les plus, etc. Moi, j'ai dit 25, 30, maxi, dimanche. Déjà, c'est après au moins une heure, pas une heure et quart d'être assis, pas assis, d'être à l'église. Et si on commence à 11h15, 11h20.
Et les annonces avant.
Oui.
Il y a une demi-heure d'annonce.
Il y a une demi-heure d'annonce avant.
Ça, c'est l'autre sujet, mais tu ne peux pas parler de choses qui passent. Ou tu ne peux pas, donc, il faut vraiment être au clair par rapport à la durée des messages. Parce que. Donc, on peut vraiment ennuyer les gens, parler les gens, et je crois que je veux dire tout à l'heure qu'une chose qui frappe les gens qui viennent dans une église comme la nôtre pour la première fois, on est plus de choses, l'accueil, la musique, l'ambiance, les prières, mais c'est le président, ce qu'il dit et comment il est, et le prédicateur. Et si les gens partent avec une présidence qui endort, avec un prédicateur, qui fait peur, les gens vont partir pour dire bon, je vais essayer une autre église. Ou il y a un président qui préside, parce qu'on peut être président sans savoir présider. Et ces gens-là ne peuvent pas présider. Et on peut être prédicateur sans savoir prêcher. Donc c'est important que le message, qu'on soit bon ou mauvais, soit
justement, mais que le message ne dure pas une éternité. Je crois que c'est, je vais vous dire ce que John Stott a dit, j'ai dit ça tout à l'heure, tout sermon devrait paraître durer 20 minutes, même si en réalité il dure plus longtemps. Lui, c'était un homme de 40 minutes. Mais bon, il avait le don, tout le monde a passé. Donc, la conclusion, un moment important. Alors, les illustrations et les citations, c'est un grand sujet aussi par rapport à la prédication. Pourquoi s'en servir? Est-ce nécessaire? Et où peut-on trouver des citations et des illustrations? Alors, pourquoi est-ce qu'on se sert d'illustrations et des citations?
Pour varier les thèses.
Pour varier, varier.
Jésus servait bien par
parabole. Déjà, on suit un bon exemple. Tout à fait.
Ça permet de capter l'attention.
Et capter ou recapter.
Tout à fait. Ça rend plus vivant aussi,
plus compréhensible aussi.
Ouais. Tout à fait. Plus vivant, plus compréhensible.
Tout à fait.
Pourquoi s'en servir? Alors, oh, j'ai appris deux fois. C'est quelque chose de biblique. Jésus, les paraboles. Un père avec un fils. On vous imagine ça tout de suite. Le sommeur, hein, tout ça, c'est pas le même que je répète, mais Jésus, ce qu'on faisait, ils s'en servaient. Mais Jérémie, Amos, Michée, Paul, presque tout le monde se servait d'illustrations, d'images pour faire passer leur message. Ça sert aussi à souligner, ça je dis, ça souligne un point, ça souligne un aspect du message. Ça permet aussi aux gens de se souvenir. Ils se souviendront pas de ton message, mais ils se souviennent d'une illustration ou d'une citation. Et ça c'est important aussi. Ça permet aussi, comme Eric a dit, de capter l'attention ou de recapter l'attention, de rattraper des gens qu'on avait perdu en route. Et si on cite quelqu'un, un héros de quelqu'un dans la salle, quelqu'un qui est en train de s'endormir, et il entend Goldman, ah oui, ou Elvis, ou qui sait encore, mais ça peut réveiller des gens. Et puis c'est intéressant aussi. Ça peut aussi éclairer ou éclaircir. Et Paul dit ça dans Romains 6, après avoir parlé du baptême, avec plusieurs images, la grève, la mort, un enterrement, une résurrection. Paul dit de Romains 6, verset 19, si je parle à la manière des hommes, c'est à cause de votre faiblesse naturelle. Il dit, j'emploie des images parce que vous avez du mal à comprendre ce que c'est le baptême. C'est ça qu'il dit aux hommes. Et nous sommes tous faibles.
Tu peux répéter le verset.
Romains 6, 19. Donc, c'est juste après d'avoir parlé du baptême, c'est comme une grève, une mort, une résurrection. Si je parle à la manière des hommes, c'est à cause de la faiblesse, c'est à cause de votre faiblesse naturelle. Puisque vous le faites, je vais prendre des images. Bon, c'est pas très flatteur. Mais on a besoin d'images. On comprend avec des images. Un enfant comprend avec des images. Parfois, ça permet aussi aux gens de s'identifier au message. Parfois, comme on le disait tout à l'heure, ça permet de susciter l'intérêt ou de garder l'intérêt ou de retrouver l'intérêt. Illustration, citation. Voilà. Oui.
Non, j'allais dire aussi, des fois aussi, ça permet de... qu'on s'en sert d'arguments, en fait. Ça permet de dire, ben voilà, ça se passe comme ça dans cette citation-là, donc voilà, que ce soit
pour vous. Oui, c'est ça.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver les citations ou les illustrations?
Google.
Attention. Ah oui, je n'ai pas mis tout au pour les trouver. Alors, on peut les trouver partout. On peut les partout, je veux dire partout. Il y a des livres qui existent, des livres chrétiens. C'est un Suisse qui a sorti deux ou trois livres avec des citations de toutes sortes de personnes, vivantes, mortes, politiques, sportives, peu importe. Et c'est classé par catégorie. Et ça donne des idées de. Vous prêchez sur l'hospitalité. Tiens, qui a parlé de l'hospitalité? Ah, Gandhi a dit ça. Ah, Jules César, il a dit ça. Bon, on va citer des gens pour ça. Il existe aussi, ça c'est un livre que j'ai acheté, non, c'est un cadeau de Noël il y a 7 ans. Non, 5 ans. Des proverbes, des dictons du monde entier. Et là, j'ai pu sortir des trucs. En ch'ti, que quand j'ai prêché dans le Pas-de-Calais, même les ch'tis ne savaient pas. Bon, mon action n'était pas vraiment au top, mais bon. Et on peut sortir des choses, et même dans certains milieux, pour montrer aux gens que, bon, on s'intéresse à la culture, il y a des milliers là-dedans. Bon, il ne faut pas sortir une citation, un dicton de tous les pays et tous les dimanches. Mais il y a des choses très intéressantes là-dedans. Et puis, bien sûr, aux infos, à la radio, à la télé, il y a plein de choses qu'on peut prendre. Il y a 30, je suis en France, j'ai 33 ans, j'ai commencé, plus de 35 ans, j'ai commencé à collectionner, ou à collecter, et à classer des illustrations et des citations. Et je me suis acheté, donc aujourd'hui je ne ferai plus comme ça, mais je me suis acheté un truc comme ça, avec des fiches de Bristol. Et j'ai ABCD en bleu, ABCD derrière mon arbre. Et c'est classé par ordre alphabétique, citation, illustration. Donc n'importe quoi que j'entends, je classe ici. Je découpe dans le journal. J'ai été abonné à West France pendant des années, plein de choses. À la Voix du Nord pendant 13 ans, plein de choses. Quand j'ai mis l'ordinateur et quand j'ai mis sur Internet, tout de suite j'ai MSN et les infos, je sais pas pourquoi. Mais, bon. Mais là-dedans, il y a plein de choses qui sautent aux yeux. Donc j'appuie et je place soit là-dedans, si c'est trop gros, je place dans un autre classeur avec des fiches un peu plus grandes. Partout, on peut trouver des choses. J'ai des choses ici à classer que j'ai trouvées récemment. Toute l'histoire de Blondin qui était funambule. Il était du Pas-de-Calais. Et il avait celui qui a marché sur une corde au-dessus des chutes de Niagara. Et on peut prendre ça, il a pris son patron, il a mis dans une brouette. Il dit, est-ce que tu veux que je te pousse? Ben, d'accord. Et il a fait. Il faut avoir la foi pour faire ça. À un moment donné, Blondin, il va au milieu, il la réchauffe et il fait cuire un œuf au-dessus des chutes de Niagara. Il faut avoir la foi. Bon. Il y a plein de choses comme ça. Sur des feuilles de calendrier, livre aujourd'hui, méditation quotidienne, il y a souvent, pas toujours, parce qu'il ne faut pas, mais souvent une citation ou une petite anecdote. Et on peut prendre, on classe par terre et on peut classer quelque part. Maintenant, avec l'informatique, je ne ferai pas ce système-là aujourd'hui. Mais on peut faire des bases de données et partout. Au marathon de New York, le lendemain du marathon de New York, je donne un exemple. Vous allez me dire à quoi ça peut servir cette illustration. La femme la plus âgée au marathon de New York, elle a dit son nom, c'est sa date de naissance, elle avait 86 ans. Elle avait alors 87 ans le jour de Noël, donc dans un mois. Elle court au marathon de New York, c'est la 25e fois qu'elle le fait. Elle était prof de PS, hyper sportive, malgré ses 86 ans, Le lendemain, elle va assister à l'émission de Kelly à New York. Mais pendant la course, le dimanche, elle est tombée. Et c'est comme une tête. Quelqu'un l'a relevée et elle continue à courir. À la fin de la course, les infirmiers, les médecins disent qu'il faut tout réanimer l'hôpital.
Oh non, non, vous savez, je suis une ancienne prof de PS. J'ai fait cette course 25 fois. Je suis marathonienne depuis 60 ans. Pas besoin de médecin. Je sais, oh, du mal, que ça va passer.
Le lendemain, elle est à la télé. À midi, elle rentre à l'hôtel. Elle se repose, elle ne s'arrête pas. Que celui qui s'égare, que celui qui se croit de vous, prenne garde à tout. Ça fait des années que j'ai couru le marathon. Ça fait 25 ans que j'ai fait le marathon de New York. Pas besoin de médecin, j'ai mal à la tête, j'ai collé mon corps, pas de souci. Un chrétien qui croit qu'il ne va jamais tomber, va faire gaffe. Et il y a plein de choses.
Il est certainement déjà en train de tomber.
Tout à fait, tout à fait. De tout milieu, là, le 11 novembre, il y a eu l'enterrement en Angleterre à un ancien militaire de la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort le 7 novembre, sans famille, il ne s'est jamais marié, il est mort à l'âge de 99 ans. Et il allait être enterré seul. Personne n'allait venir à son enterrement. Malgré tout ce qu'il a fait pour son pays. Donc le directeur des ponts funèbres a dit, mais ça va pas, c'est un héros. Et personne n'en a. Donc il a mis sur Facebook et sur il a envoyé des messages, mais cet homme-là, un soldat, il va être enterré le 11 novembre, c'est pas férié, on le sait. Et puis personne n'en a renseignement. Plein d'anciens combattants ont vu ça. Ils se sont envoyés des emails, il y avait des centaines de personnes à son enterrement. Lendemain, j'ai vu ça à la télé, et j'ai découpé l'article de journal là-bas, en me disant, mais quand un chrétien meurt, même s'il est seul, après tout ce qu'il a fait pour le Seigneur, déjà, il ne meurt jamais seul parce que l'ange vient pour le ramener au sein d'Abraham, Luc 16, et puis le Seigneur, il va dire, bien. Bon et fidèle serviteur. Et même si un chrétien meurt au fin fond de l'Afrique ou au fin fond de l'île de Lyon, inconnu, il aura sa richesse. Il y a plein de possibilités. On peut les trouver partout, dans des journaux, dans des revues et dans des domaines différents, le sport, la santé. Pendant des années, quand j'étais jeune marié, même célibataire, j'étais abonné à pas mal de revues payantes et gratuites. De plusieurs domaines différents, et j'ai trouvé plein d'articles, des expériences personnelles. On peut partager des choses, sans toujours parler de soi, bien sûr. Il suffit d'avoir les yeux ouverts toute la journée et de classer les choses, de noter des choses. Et très souvent, même aux infos, on regarde très peu les télés, on regarde les infos de temps en temps, mais une citation de quelqu'un. Un homme politique il y a des années, juste quelques mois avant les présidentielles, il était interviewé à la télé et la journaliste s'est dit, alors, est-ce que vous allez vous présenter aux élections présidentielles dans 18 mois ou l'année prochaine? Et l'homme qui est un homme certainement athée, d'après tout ce que je sais, il a dit, ah vous savez, l'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour tout. Tu vas être tombé devant moi. Et c'est mieux. Et j'ai cité cet homme-là. Je peux vous donner son nom si vous voulez. Mais bon, c'est intéressant. Et bien sûr, tout même ceci qui a été dit. Et par un homme que tout le monde connaît. Donc, partout, on peut trouver des choses. Des fiches, des affiches de publicité. Un slogan. Le BNP, pendant des années, leur slogan était. Demain se prépare aujourd'hui.
Un message.
Pour ma vie chrétienne, demain se prépare aujourd'hui. Je dois penser demain, mais je dois agir aujourd'hui. Et il y a plein de choses comme ça. Groupama, assurance à l'époque, c'était la slogan qui est pour nous dire, c'est tenir. On dit et on tient la parole. Et le Seigneur, quand il dit, il tient sa parole. Jamais il ne ment. Bon,
Et comment, les donner partout.
Comment tu retrouves tes citations classées là?
Bah, dimanche, je prêchais à Saint-Pierre sur la tentation. Donc je cherche, c'est tentation. J'ai trois cartouches comme ça. Et puis j'ai bon, et puis je le mets sur mes notes. Aussi, c'est une citation. Parfois, je trouve quelque chose dans un livre, un paragraphe. Bon, je ne vais pas écrire un paragraphe, donc je mets ici, livre Tozer, connaître Dieu, page interne. Et puis je cherche la page, et puis je photocopie ou je fais allusion si je prêche. J'ai plein de. Au sujet que j'ai, où j'ai rien, mais que ce soit la prière, sanctification, le témoignage, la connaissance, l'amour, le mariage, la maturité, les murmures, les critiques, le discernement, et plein.
On peut venir te voir.
Tout à fait. Ça, je veux bien passer ça. Et j'ai toujours peur de le faire tomber parce qu'il y a deux gens. Voilà. Un de nos garçons, pour ne pas le nommer celui qui est marié, il me dit, papa, est-ce que tu peux prendre ta boîte? Bien sûr, mais j'ai dit, il faut tout dire que tout soit classé comme c'est maintenant. Pas de souci. Mais il est vraiment enthousiaste, il prend une carte, puis il copie, il met sur son ordi, tout ça, et puis il a tout mal classé. Et puis, bah, je suis toujours en train de trouver des choses mal placées. Le cas, les citations avec les illustrations, les illustrations avec les citations. Parce que pour le sujet, pour me rappeler aussi, le sujet de l'égoïsme, si c'est une citation, c'est souligné en vert. Et si c'est une illustration, c'est souligné en marron. Comme ça, déjà, je sais où. Peut-être qu'il faut être plus tendu.
Non, mais.
Non, mais la clé,
c'est Christian, tu fais pas avec tes vis, c'est des. C'est bien.
Non, je
me suis
dans une boîte.
Ça s'appelle une
boîte
de données.
Tout à fait. Mais la clé, ouais, c'est la classification, savoir retrouver les trucs.
Oui.
Et ça. Oui, là, il n'y a pas de fonction priée. Comment là, il n'y a pas de fonction priée. Il faut savoir lire.
Donc, alors.
S'ils nous embêtent, on sait quoi faire.
Oui, là on a.
C'est
dans la bête.
Dans mon corps,
non, pas ma boîte.
Et donc, ce que j'ai fait, je crois qu'on a une collection comme ça, et puis je prends 2 heures, par-ci par-là, et puis je les classe là-dedans, et puis je m'envoie comme ça. Bon, les illustrations, mais il y a 4 dangers. Que des illustrations soient trop compliquées. Ou on raconte une histoire, on illustre quelque chose, et puis les gens se perdent, parce que c'est compliqué. Il y a M. Dupont, Mme Dupont, M. Durand, Mme Durand, et puis avec des choses compliquées, et on peut perdre les gens. Donc si l'illustration est trop compliquée, il faut le mettre dans le ouvert. L'illustration peut être aussi trop détachée, c'est-à-dire il n'y a pas de lien avec le message. C'est une super histoire, tout le monde rigole, tout le monde aime bien, tout le monde écoute, mais il n'y a aucun lien de ça dans le texte public. Si c'est détaché, on n'est pas là pour distraire les gens, on est là pour enseigner. Aussi trop nombreuse, ça c'est donc une tentation à laquelle je prépasse régulièrement parce que j'en ai plein. Et il ne faut surtout pas que le message soit une série d'histoires. Et on doit aussi se discipliner. Et l'autre problème, c'est que si le prédicateur est trop oublieux, il oublie, mais est-ce que j'ai déjà utilisé cette illustration surtout si on prêche dans la même église assez souvent. Et il ne faut pas trop oublier où on utilise telle ou telle illustration. Et quand on a un ministère itinérant, il ne faut pas oublier ce qu'on a prêché à quel endroit. Et ça, c'est quelque chose, moi, j'ai une grille avec toutes les églises où je prêche et de Lyonnais, et le texte, le sujet. Et pour la petite histoire, il y a 3 ans, j'ai prêché dans une ville ailleurs en France, et j'ai prêché sur un texte de Matthieu 14, et il y a quelques semaines, j'ai prêché au Chambon, pour ne pas le nommer, et j'avais à cœur de prêcher ce même texte. sur ce texte. Ok, j'avais vraiment à cœur, donc j'ai repris le texte, le message que j'ai retravaillé. Et le samedi, je me suis rappelé qu'au Chambon, il y a un frère, Gérard Christian, qui était dans l'église de Saint-Chamond il y a 3 ans quand j'ai prêché ce message. C'est le samedi après-midi. Et je me suis dit, est-ce qu'il va se rappeler? Est-ce qu'il sera là demain? Est-ce que je devrais prier qu'il soit malade? Est-ce qu'il va se rappeler? Est-ce que je devrais dire au début du coup, Gérard, ne dis rien. Est-ce que je vais dire ce message? Et puis j'ai dit, bon, je vais prier que le Seigneur mette, et Gérard était là. Il n'a rien dit après, j'ai rien dit avant. Et bon, peut-être il a dû se dire, mais David, on m'a fait 2 minutes. Ah, mais c'est ça. Mais bon, ça c'est un petit souci quand on prêche ailleurs. D'ailleurs, une fois, j'ai prêché à Arras sur André, le disciple, et Rebecca était chez nous ce week-end-là. Et l'année suivante, ici, j'ai prêché sur André, et Rebecca était toujours partie. Et puis, elle m'a dit à la fin, on se souvient, ta fille. Je suis doublement béni, ça fait 2 fois que j'ai entendu le même message. Une fois à Arras, une fois ici. Oh, j'étais peu gêné, mais je suis dit, bon, faut sourire. Bon, quelques remarques diverses, rapidement. 14.
14 remarques?
Oui, pour le point qu'il y en a. Les textes devant toi, tu verras. Quand tu présides et quand tu prêches, tu verras les gens, bien sûr, devant. Quand on est au culte, on voit les derrière les textes. Mais quand on est devant, quand on joue du piano, quand on chante, quand on prêche, quand on préside, on voit les textes. Et ça peut être très déconcertant. Parce que certains textes sont très décourageants pour l'orateur. Il y a des gens qui donnent l'impression, juste par leur expression, qu'ils s'ennuient à mourir. C'est parfois ces gens-là qui viennent à la fin et qui te disent « Quelle bénédiction, frère. Quel message. Merci. » Donc, ne tenez pas compte des têtes que vous voyez. Sauf si vous voyez des gens qui suivent et qui avalent tout ce que vous dites, alors là, laissez-vous encourager par ces gens-là. J'ai un frère dans l'église où je viens en Écosse qui, chaque fois, je ne sais pas comment, mais quand quelqu'un prêche, il est là, il est là. Alors je le regarde souvent, bref, ça m'encourage. C'est vrai qu'il ne comprend rien de ce que je dis, mais il m'encourage par ce texte. Mais parfois, quand on prêche, on va voir 2 personnes, pas forcément 2 jeunes, mais 2 personnes qui parlent tout le temps. Tu es tenté de vous péter, et dire hey, taisez-vous, tu parles. Ou ça peut vous distraire, mais il ne faut pas en tenir compte. Ou quelqu'un arrive de lire. Une fois dans un message dans une autre église, j'ai fait une illustration de quelque chose dans le langage des signes. Et j'ai expliqué 2 ou 3 signes du langage. C'est dit langage des signes ou langage des signes. Et quand j'ai commencé à dire ça, j'ai nié et j'ai expliqué ce que ça voulait dire. 2 femmes au fond de la salle se sont regardées et ont commencé à rigoler. Et je me suis dit, ah. J'ai dû me tromper. Elle doit être sourde, ou une est sourde, ou une connaît le langage. Oh. Donc à la fin, je me suis mis à la porte et j'ai salué les gens. Et puis une des 2 dames est venue et elle voulait me parler d'autre chose. Et puis j'ai fait allusion à ce que j'ai dit. Et elle a dit, ah non, à ce moment-là, c'est dit autre chose. Et elles ont rigolé à cause d'autre chose, pas du tout à cause du message. Donc, mais quand j'ai fait ça, et surtout, on parle du langage des signes. Bon, je ne connais pas le langage des signes, mais je connais quelques mots. Et en anglais, ce n'est pas le même chose qu'en français. Et donc, je n'étais pas très sûr de moi. Et ça m'a déstabilisé quelques secondes, dans ma tête en tout cas. Donc, il ne faut pas tenir compte des têtes qui vous découragent ou qui vous dépriment. Deuxièmement, où est-ce qu'on doit regarder? Parfois, quand on commence à prêcher, on regarde toujours un ancien, le pasteur, et on le fixe et on prêche à ce frère. C'est pas la chose.
Sa femme.
Ou à sa femme. Un prédicateur prêche à sa femme.
Non, il regarde sa femme.
Oui, oui, ça arrive aussi.
Ou certains prédicateurs, malheureusement, ils ne le cachent pas, ils choisissent quelqu'un dans l'église qui regarde souvent. Ça, c'est gênant pour la personne. Si c'était ma belle-sœur, elle savait que chaque fois qu'un certain prédicateur venait dans notre église en Écosse, il la regardait. Et un dimanche, ils se sont parlé et il a dit au Margaret, je m'excuse, mais j'ai choisi quelqu'un à regarder dans chaque église et quand je viens ici, c'est toujours toi. C'est un peu gênant. Elle est gênée. Que l'homme la regarde, pas tout le temps, mais très 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 souvent. Donc, il faut regarder l'ensemble. Une autre question, c'est la voix. Ta voix. On doit bien sûr apprendre à varier la voix, le volume, la variété, et avoir une voix qui est vraie. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont prêcher, ils doivent avoir une sainte voix. J'ai connu des choses comme ça. Et qui prêchent avec une autre voix. Ce n'est pas leur voix naturelle. Bon, il faut crier, bien sûr, il faut parler plus fort, et d'une certaine manière, mais il y a des gens qui pensent. C'est peut-être inconscient. Mais ce n'est pas le même droit derrière là que assis à table avec toi au milieu. Et il faut être vraiment soi. Il ne faut pas essayer d'imiter les pélicrames, les années choquées de ce monde. Mais on peut apprendre à campagner le public en écoutant les hommes politiques, les femmes politiques et aussi des avocats. Vous regardez l'avocat qui sort du tribunal après l'affaire du siècle, tel crime, et l'avocat qui condamne ou l'avocat qui défend s'exprime pendant quelques secondes devant les caméras de la télé. Et là, la façon de s'exprimer peut nous apprendre comment nous on peut s'exprimer par voix en public. Donc on met voix veiller sur sa voix. Il n'y a pas d'instituteur ici. Un défaut chez certains instituteurs ou institutrices.
Qui tapent sur les doigts.
C'est un des défauts. Quand ils parlent, même à la main avec un autre adulte, ils parlent aussi cet amant. Et certains instituteurs, quand ils prêchent, c'est comme s'ils s'adressent à des enfants. Il y avait un garçon dans l'église, Jean-Marc Calais, qui a suivi une formation pour prêcher. Et on aurait dit qu'il avait étudié son fils de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Et là, maintenant, il a changé sa façon de prêcher. Il ne parle pas comme s'il parlait à son gamin, mais à des adultes.
Peut-être que
son gamin est grand.
Il a eu la même idée.
Il a eu deux depuis. La fête de l'été, quelque chose au long de la. En tout cas, on doit avoir une voix qui est vraie, et aussi le visage. Si on n'est pas beau à regarder, les gens ne vont pas nous regarder. Et s'ils ne nous regardent pas, ils risquent de ne pas nous écouter. À cela, on va bénéficier pour être beau, Mr. Unilaire. Mais il faut être agréable à regarder. Et on va y revenir par rapport à des tics et des choses comme ça. C'est Danny Hamou, l'ancien président du réseau FEF, qui a dit « On n'est pas responsable de la tête qu'on a. » Par contre, on est responsable de la tête qu'on fait. Il y a une différence à avoir une tête, faire une tête. Mais en tout cas, et on doit faire attention. Alors, si on est toujours très, très, très grave, avec une tête hyper sérieuse, donc, ça passera pas. La lecture de la Bible. C'est un moment vital, je crois qu'on en a déjà parlé. Il faut s'entraîner chez soi, il faut s'entraîner à haute voix chez soi, il faut s'entraîner même devant une classe chez soi. Je le fais toujours, enfin, pas toujours, mais je le fais encore aujourd'hui. Parfois, dans la salle de bain, le dimanche matin, avant d'aller au culte, je lis le texte devant ma classe. Il ne faut pas dire ça. Mais déjà, j'ai analysé sur moi, mais comment je suis. Est-ce que je me tiens bien, et puis est-ce que je vis bien, et puis il faut s'entraîner à lire. Parce qu'encore, on peut gagner des gens ou perdre des gens pendant la lecture du texte biblique. Et si c'est 3 chapitres,
Là, on va les faire. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, j'avais vu aujourd'hui 3 et 4, et je n'ai pas vu les deux chapitres. Parce que ça aurait déjà pris 20 minutes de message de 30. Okay. Mais la lecture est très importante, et les références bibliques, on doit les lire 1, 2, 3 fois, 4 fois. Si c'est affiché, c'est très bien. Mais on doit attendre aussi que tout le monde tombe. Donc ne soyez pas gêné de quelques secondes de silence. Les secondes peuvent sembler être des minutes ou des heures, mais quelques secondes, c'est pas gênant le temps d'attendre que tout le monde trouve le texte biblique. Mais une chose que vous trouvez aussi, quand on préside et quand on prêche, on est parfois étonné, sinon choqué, par le nombre de personnes qui viennent au culte sans la Bible. Bon, ils ont mis la Bible là-dedans, c'est très bien. Mais il y en a qui viennent, enfin, je ne parle pas de quelqu'un particulier ici, mais dans nos églises, il y a des gens qui viennent au culte, des chrétiens, mûrs, parfois moniteurs, monitrices, d'école des dimanches, et qui viennent sans Bible. Et ça peut vous surprendre. Et c'est gênant si vous demandez quelqu'un de lire le texte, et tu dis, tiens, madame, monsieur, frère, est-ce que tu veux lire ce texte ce matin? Et la personne, et puis demande la Bible de son voisin. Il vaut mieux vérifier avant que la personne soit prête, et la personne et sa Bible. Et visuel, on peut utiliser des visuels, bon, maintenant, le PowerPoint, il y a tout un tas de choses, et je vous renvoie de nouveau à l'intervention de Mathieu Ducrozier par rapport à ça. Mais les aides visuelles peuvent servir des objets. Mais si on a des objets, des aides visuelles, ou flanérographes, ou des images dans une salle comme ici, il faut que ce soit sur un écran. Si on met quelques images sur un flanérographe, bon là, personne ne le voit. Ça dépend de la taille de la salle et du nombre de personnes. Mais il faut avoir des aides visuelles tout à fait adaptables. Sens de l'humour, je n'ai pas parlé de ça. Il faut toujours maîtriser le sens de l'humour. Tout le monde n'en a pas. Enfin, tout le monde a un sens de l'humour. Mais pour certains, c'est plus développé que pour d'autres. Mais le danger pour un prédicateur qui aime bien rire ou faire rire, c'est de trop faire rire pendant le message. Et un sens de l'humour peut ajouter quelque chose à un message, mais ça peut enlever quelque chose d'un message. Et on doit vraiment être prudent par rapport à ça et ne pas faire des gaffes. Pas consommer avec modération. Neuvième, est-ce que quelqu'un peut réagir par rapport au sens de l'humour? Il y a un prédicateur, Lloyd Jones, qui avait un très grand sens de l'humour, très. Et quand il prêchait, il s'en servait quasiment jamais. Il estimait que quand il était dans la chaire, derrière le public en train de prêcher, il n'était pas là pour faire rire les gens, mais pour nourrir les gens. Et il se refusait de faire rire. Un de ses disciples, entre guillemets, s'appelle Sinclair Ferguson, et il y a 40 ans, il avait la même mentalité. Non, je ne peux pas faire rire les gens quand je prêche. De temps en temps, j'écoute Ferguson prêcher sur Internet, et ces 20 dernières années, il a changé son fusil d'épaule. Et parce qu'il a un grand sens de mots, c'est vrai. Et maintenant, de temps en temps, il y a une petite illustration, une petite blague, par-ci, par-là. Et c'est bien, mais il faut aussi bien doser le sens de l'humour. Et pour certains, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'avec l'humour, il y a des choses qu'on a préparées, qu'on prévoit de vivre. Mais parfois, quand on fait rire les gens réagissent, et puis on pense à autre chose, et on surenchérit avec des auditeurs, et puis là, on peut vraiment partir à la dérive, parce qu'on quitte la parole de Dieu, et on fait un choix. Et on n'est pas là pour faire un choix. Préparation, bien sûr, il faut être bien préparé. Et avoir un titre, oui, parfois, pas toujours, dimanche prochain, j'ai prêché à Saint-Pierre, je n'ai pas de titre pour le message. Guy, dimanche dernier, a dit, en me regardant, il paraît qu'il faut donner un titre pour le message. Voilà mon titre. Bon, c'est très bien. Mais ne vous sentez pas coupable si vous n'avez pas un titre. Le Seigneur ne va pas vous frapper, vous foudroyer sur le champ.
Pas sur le champ, non.
Peut-être le lendemain. Bien sûr, il faut croire ce que vous dites. Être convaincu afin d'être convaincant. Et bien sûr, il faut que ce que vous dites se voit aussi dans votre vie. Il y a trop de gens qui ont la mentalité « Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Comme l'apôtre Paul disait à Timothée, « Faites ce que je vous dis, et faites ce que je fais, parce que imitez moi, parce que moi j'imite Christ. » Ce monde se devrait pouvoir, entre guillemets, en toute humilité, dire la même chose, mais on ne va jamais dire en public. Mais on doit être prêt à être fidèle envers la parole de Dieu. Le langage du corps, c'est un sujet que j'aime beaucoup, et le pied, les mains, les lunettes, les tics, les tocs, tics et tocs, tout à fait, tout à fait. Et parfois, quand on est dans certaines églises ici, on préside un culte par exemple, et on reste sur les stades, quand il est le prédicateur, donc on est derrière le prédicateur, et là, on voit des choses que le prédicateur fait, que les gens ne sont pas conscients. Et moi, j'étais derrière quelqu'un que vous connaissez tous, et j'ai remarqué que les gens ne voyaient pas, mais ils se levaient toujours comme ça. Mais ils se voyaient à peine devant, mais moi derrière. Et aussi, un autre prédicateur parle toujours avec ses mains derrière le dos, mais il enlevait et remettait son alliance toutes les deux secondes. Bon, ça ne gêne pas les gens, pas pour moi, ça ne me gêne pas. Mais il y a d'autres qui ont d'autres tics ou d'autres trucs, les cheveux qui tombent tout le temps. Ou alors, les lunettes, on les enlève, on les met, on les remet, on les enlève, on les remet, on les enlève. Bon, et c'est, ça peut se faire, mais. Ou alors, on passe de parler, je crois que ça fait plus. Oui, je vais revenir au titre, mais il y a des choses qui peuvent frustrer les gens. Mais si on nous le dit, on peut corriger. Si c'est une affaire d'État, oui, mais si c'est pas une affaire d'État, non. Mais il y a des gens qui ont parfois des façons de se tenir ou de pointer du doigt. Mais il faut être conscient de son langage du corps, parce que les gens peuvent regarder le corps sans écouter la voix ou le message. Et ça, on doit faire attention. D'ailleurs, c'est Fernand le Grand qui était bègue quand il parlait un à un, et quand il prêchait en public, très intéressant. Langage du corps. Le Saint-Esprit. Au cours du message, parfois, vous allez décider, sans trop réfléchir, de ne pas dire quelque chose que vous avez prévu. Et parfois, vous allez dire quelque chose qui n'était pas prévu. Une idée, une citation, un verset, une illustration va vous venir à l'esprit. Vous allez le dire. Là, quand ça arrive, il y a un débat qui se passe dans la tête et dans le cœur. Personne ne te comprend. Mais tu es là en train de dire, hey, ça vient du Seigneur, du Saint-Esprit, ou est-ce que ça vient de d'ailleurs, dans le sens du diable, est-ce que c'est humain, est-ce que c'est spirituel? Et là, parfois, on doit suivre son instinct et dire, enlever, accueillir. Mais c'est pas tous les dimanches que ça m'arrive. Et ça peut arriver, à cause de telle ou telle chose qui nous vient expliquer.
T'arrives à réfléchir quand tu. Oh.
Le Saint-Esprit, donc parfois on doit être prêt à changer quelque chose qu'on avait prévu de dire et on ne le dit pas pour telle ou telle raison. Le diable du message, il faut bien sûr garder le message, ne pas le faire sur le voie publique, garder et classer, et ça peut servir ailleurs.
Est-ce que tu y reviens? Tiens, j'aurais dû dire telle chose, j'aurais dû aborder tel sujet, j'aurais plutôt dû le dire comme ça. Est-ce que tu as un travail de feedback, j'allais dire?
Parfois, soi-même, on s'en rend compte. Parfois, ma femme dit, David, c'est ce que tu as dit là, tu sais, à ce moment-là, ce n'était pas très clair.
D'accord.
Et je me sens vraiment pas bien. Mais si elle dit, bon, ça veut dire que ce n'est pas très clair pour les autres. Et je dis, bon, il faut que j'améliore, il faut que je change. Que... Donc, si on est marié, notre femme peut être très critique, trop critique. Parce qu'il veut qu'on soit parfait, pour que personne ne puisse nous critiquer. Ça peut être la difficulté chez la femme des lettres qui prend. Donc, tout en sachant qu'il faut écouter sa femme, il ne faut pas toujours écouter sa femme, ou il ne faut pas trop écouter sa femme dans ce domaine-là. Mais s'il y a des retours d'autres personnes de confiance, ça peut aussi nous aider. Oh, pardon. Quelques dangers divers. Premier, c'est de toujours chercher dans ton culte personnel un sujet pour la prédication du dimanche prochain. Comme je disais la dernière fois, je crois, la première fois, surtout quand on reste souvent, qu'est-ce que je vais faire hein? Mais c'est le danger. Le culte personnel, c'est d'abord personnel. Il est vrai que parfois, dans son culte personnel, on trouve une idée, un verset, et on pense, tiens, ça pourrait servir pour quelque chose. Je crois que j'ai dit que j'ai un cahier de texte à la maison. Avec le sujet mariage, enterrement, présentation d'enfants, plusieurs cérémonies qui existent, et j'ai placé des illustrations ou des versets bibliques qui pourraient servir pour un mariage, pour un enterrement, pour une présentation d'enfants, pour l'inauguration d'une salle de culte, des choses comme ça. Mais bon, ça c'est parce que l'idée me vient, mais je ne cherche pas des idées pour des prédications quand je fais mon petit personnel. C'est d'abord pour nourrir mon âme. Même si je peux piocher là-dedans pour faire partie d'un message. Un autre danger, c'est de se croire supérieur. On prend la parole, les autres n'ont qu'à se taire. Et si c'est ça la mentalité, il vaut mieux ne pas prendre la parole. Et l'autre, c'est de ne pas prier assez, ou de ne pas assez prier. On doit prier pour le message, pour le messager, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, mais quand c'est nous qui prêchons, on doit prier pour nous, pour soi, pour le message, pour la préparation et pour la prédication et pour les gens qui vont nous écouter. Un message qui n'est pas vivant pour moi ne sera pas vivant pour vous. Si je prêche dimanche sur la tentation et si je suis là pour si je donne l'impression que, bon, c'est intellectuel, mais ça ne vient pas de mon cœur, ben, ce ne sera pas vivant pour lui. Si ce n'est pas vivant pour moi, ce ne sera pas vivant pour les gens. Il ne faut pas aussi avoir toujours le même style de prédication. Bon, là, comme je disais, moi, je prêche très souvent, mais le danger, c'est de toujours dire, bon, introduction, trois points qui commencent avec la lettre P et conclusion. Il faut varier aussi. Il ne faut surtout pas viser quelqu'un dans la salle. Bon, tu veux parler de mensonge. Du mensonge, hein, et tu dis, tout le monde sait qu'il y a un menteur dans la salle et tu le regardes tout le temps.
Ah. Bon, il est là. Oui, il est là.
Tu sais. Mais il y a toujours des gens qui se sentent visés. Ça peut venir du Saint-Esprit, et c'est formidable. Mais il m'est arrivé de prévenir un individu si j'allais aborder un sujet qui le concernait lors d'une prédication. Je donne un exemple, un couple qui les deux vivaient dans l'adultère, mais ils étaient membres de l'église, et personne ne savait, et on les accompagnait, on les suivait. J'ai prévu que dimanche suivant, je vais faire une vidéo de David, je vais parler de David et Bathsheba. Donc, personne ne connaît votre situation, Donc je prêche là-dessus parce que je fais des vidéos d'avis. Donc ne vous sentez pas gêné ou visé dimanche prochain. Pas de souci. De l'autre fois, j'ai fait un lieu où j'avais prêché, faire un lieu en quelque chose, je ne pas. C'est des nommés qui étaient ivres et les conséquences de l'ivresse. Et il y avait une dame, femme d'ancien, dans l'église, alcoolique. Personne ne le savait, sauf son mari et son psychiatre et son médecin alcoolique et nous. Donc j'ai prévenu, parce qu'elle avait toujours peur que j'étais noir, on dit, c'est quoi le mot ?
Divulguer.
Divulguer, merci. Qu'on divulgue le secret, chose qu'on ne ferait jamais. Et donc j'ai prévenu, c'est une question par visite, ne bougez pas, personne ne connaît ton problème, mais je vais parler de Noé et je vais faire un lien par l'alcoolisme, mais par l'ivresse, je ne veux pas que ça soit visé. Mais il y a des gens qui peuvent se sentir visés. Combien de fois on prêche quelque chose et puis quelqu'un vient me dire qui t'a parlé de mon problème? Quel problème? Ah, mais tu en as parlé devant tout le monde. Et puis un problème de mensonge, ou critique, ou méchant avec sa femme, ou méchant avec ses enfants. Et jamais on divulgue quoi que ce soit.
Comment tu fais quand tu es dans ton message, dans ton message que tu veux réfléchir, et puis il y a quelque chose qui arrive, et tu vois quelque chose, un risque, et quand tu peux réfléchir à ce risque-là, tu t'aperçois que dans l'église, potentiellement, ce risque est là, il est avéré. Donc, est-ce que du fait que ça coule de source par rapport à ton message, et si tu n'en parles pas, ça peut être problématique, ou pas d'ailleurs, est-ce que tu peux le choix de l'éviter, est-ce que,
tu vois ce que si on le préparait et on croit que l'esprit nous le conduit, avant qu'il y ait vraiment quelque chose, une forte commission de sauter, il faut le dire. Parce que si c'est dans le texte, et si quelqu'un dit, mais tu me dis, mais non, on est en train de faire la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, et non, l'amour de Dieu, on ne peut pas dire j'aime Dieu si je déteste mon frère. Et deux frères dans la même église qui se détestent vont se sentir visés, mais on ne doit pas éviter de parler de ça. Parce que c'est vraiment basique et niveau des amis. Mais il peut y avoir une mauvaise réaction. Mais bon, si c'est dans le texte déjà, si c'est du livre, bon, on va devoir nous s'appuyer à la parole de Dieu.
Tu vois, par rapport à ça, moi je. Si on prend le thème de l'homosexualité, on peut se dire c'est un sujet qu'on peut chercher à éviter. Et puis à l'inverse, j'ai entendu des personnes en parler, mais de manière en condamnant, en mettant tout dans le même chapeau, quoi. Et du coup, il y a une confusion entre qui n'est pas saine, quoi. Même si quelque part, c'est ce que la parole dit, mais c'est dit d'une manière tellement légaliste, ouais, que c'est exclusif.
Tout à fait. Moi, j'ai une pasteur de l'église et un des responsables des jeunes a démissionné parce qu'il avait des tendances homosexuelles. Il est venu me voir, personne n'était marié, personne de l'église ne savait. Et il dit je ne peux plus m'occuper des jeunes et m'expliquer. Donc, on a passé du temps ensemble plusieurs fois. Quand ce sujet est abordé, comme une prêche, il n'a pas rougi, mais il ne se sentait pas visé. Et moi, je ne l'ai surtout pas visé. Mais il faut, comme tu dis, si on condamne noir sur blanc, bon, c'est un péché. Mais il y a, lui, il savait, il était bon avis, il voulait s'en sortir, il faisait tout pour s'en sortir. Et là, donc, le Seigneur aide. Et aujourd'hui, des années plus tard, c'est des choses qui passent. Mais on ne doit pas avoir peur de dire ce que vient de dire, mais il y a parfois des
Il peut être dit. Il m'est arrivé une fois de switcher un texte parce que, au moment où je disais mon message, j'avais la personne en face de moi qui aurait pu. C'est pas tant dans le texte que ça peut poser problème, c'est surtout dans l'interprétation ou dans les commentaires qu'on fait autour ou dans la conduite de la pensée que ça peut toucher. Et là, effectivement, c'est plus problématique. Parce que c'est pas la parole qui touche, mais c'est l'homme qui parle.
Un autre danger, c'est de vouloir donner à manger aux girafes, ici, tandis que Jésus dit, donnez manger à mes brebis qui sont ici. Hein? Trop intellectuel. Ou là-haut, et avec des termes théologiques qui sont formidables, mais on n'est pas là pour bourrer les crânes des girafes, mais on est là pour donner à manger aux brebis. Aussi oublié que Jacques 3, 1, ne soyez pas nombreux à enseigner. Parce que ceux qui enseignent sont jugés plus sévèrement. Et après, il y a tout ce qu'il y a sur le danger de la langue. La voix, je ne voulais pas parler de la voix, mais je voulais mettre une autre couche, vous mettre une couche dessus. Quelqu'un dit il faut à la fois avoir une voix qui ressemble au tonnerre de mon Sinaï et une voix qui ressemble au son doux et léger du mont Horeb. Parfois, il faut crier, parfois, il faut être doux. Il y a des années, au centre du monde de Cologne, je n'ai pas la seule, cette année-là, quelqu'un a fait une conférence et quelqu'un qui a entendu est venu me voir quelques jours plus tard et me dit « J'ai jamais entendu Jésus prêcher. » Mais en écoutant cet homme-là, j'imagine que Jésus parle comme ça. Sa façon d'être, la douceur, quand il parle, mais la dureté quand il parle. Dans notre église en Écosse, on a un ancien missionnaire qui a passé 50 ans en Chine. Alors, il est revenu avec deux choses de son ministère là-bas, qui le marquent quand il prêche en Écosse. Quand il prêche, il crie, comme s'il rouspète. À tel point que les anciens lui ont demandé de ne plus prêcher. Parce que les gens se sentent agressés, toujours. Mais l'avantage, c'est qu'il sourit pendant toute la durée de son message, comme les asiatiques, les Chinois, qui l'avaient évangélisé. Mais il criait comme s'il respectait tout le monde qui était là. Et les anciens ont dit, frère, bon, avec l'âge, mais aussi, on peut faire que. Bon, ils peuvent déjà un peu prévenir la bâtisse, changer un peu, mais il n'a pas fait. Ça fait un demi-siècle qu'il prêchait comme ça. Et en Chine, les gens boivent en parole. Mais en Europe, quand on. Dans la façon qu'on respecte tous les hommes, bon, ça va bien une fois, mais. Donc, on doit payer ce savoir. Ne pas attendre tout le monde. Alors, ça veut dire, quand on donne la réponse publique, et ça c'est surtout dans le domaine, il y a dans certaines Bibles, il y a un décalage dans certains livres bibliques, entre le début et la fin de chapitre. Je pense au livre de Jean, je pense à.
Cette semaine, j'étais à Gabriel, et on était dans Malachie 3, 3:23, et le chapitre 3:23, en fait, il y avait pas verset 4, et il y a même un chapitre qui n'existait pas chez les autres, mais il n'existe pas chez
nous. Malachie 3, dans cette ville, il y a 3 chapitres, dans d'autres, il y a 4. Il y a le même verset, mais pas le même nombre de chapitres. Dans l'Ecclésiaste, c'est pareil. I 11 et 10, c'est décalé. Dans Jean, il y a 2 ou 3 chapitres décalés. Donc il faut juste le savoir. Comme ça, si vous allez prêcher sur un texte qui est décalé, Ecclésiaste 4 et 5, c'est une différence, vous dites, j'avais 4 verset 17, ou j'avais 5 verset 1. Et comme ça, les gens vont trouver. Mais il faut attendre que les gens trouvent. Bon, ça arrive rarement, mais sachez qu'il y a parfois un décalage. Et on doit attendre. Une interruption non prévue. On peut perdre le fil. Un bébé qui pleure, quelqu'un qui est malaise, un morceau de plafond qui tombe, l'incendie qui se déclenche et qui sait qu'il n'y a pas d'incendie, et la personne doit chercher la clé pour le placard, pour un prix off, et la personne qui a la clé est malade à l'hôpital. Donc ça sonne pendant 20 minutes de ton message. Ce sont des choses qui me sont arrivées. Tu fais quoi?
Il a tué, en fait David il parle mais ça continue à parler quoi, en fait. Non, c'est vrai. Oui c'est juste à dire
ce moment. Quelqu'un qui s'endort, qui ronfle, et les personnes à côté sont pétées de rire, tous les jeunes, oh et là tu es sérieux, tu prêches. tu fais quoi? Quand tu ne peux pas le payer le frère ou la sœur,
tu mets la main sans lui.
Ah, c'est ce message-là où il y avait tout à la fois.
Quelqu'un pose une question. Tu poses des questions rhétoriques et quelqu'un répond. Et puis les jeunes qui savent, il ne faut pas répondre à des questions rhétoriques, éclatent de rire, et la personne qui répond aux questions est gênée. Est-ce que j'ai donné de mauvaises réponses? Ou alors quelqu'un t'interrompt? Alors, j'ai une question. Moi, j'étais dans une église une fois, et pendant le culte, un homme qui m'avait écrit près de 3 ans auparavant pour une visite à l'évangile est arrivé au culte. Il était à l'hôpital psychiatrique à l'époque. Et il est là, il a salué de moi, et puis je me lève pour prêcher. Avant la fin de mon message, il sort, il retourne à l'hôpital pour manger, donc il se lève, il dit salut la vie. Ah oui, salut, que Dieu te bénisse. Et puis j'ai continué le président. Mais les gens disaient, mais c'est qui ce monsieur? Comment il connaît la Bible? Mais bon, il y a des interruptions parfois. Et il faut gérer ça. Il y a des gens qui ne sont parfois pas très heureux de ce que tu dis, et puis tu vois que la fumée commence à sortir de leurs oreilles, de leurs narines, ils sont prêts à te sauter dessus, mais... Oui. Il ne faut pas regarder ces gens-là, il faut regarder ceux qui t'encouragent. Bon, je vais y aller un peu vite. Tentation de se manquer. On peut être tenté parfois de se manquer d'une croyance, des témoins de Jéhovah, des non-chrétiens, ou des chrétiens qui ont une autre doctrine que la sienne. Et
une charismatique, par exemple. Une charismatique.
Oui. Calviniste, Aaron, Minien, autre. Et on n'est pas là pour informer les gens. Ça, c'est un cours de théologie, quand on informe. On est là pour prêcher, pour que les gens soient transformés. Les gens ont besoin d'être transformés. Mauvaise utilisation du PowerPoint, j'ai déjà fait allusion. Et l'éthique, je ne vais pas parler d'éthique. Alors, se gratter le nez toutes les 5 minutes. Nous, on avait un frère qui disait, nous allons maintenant lire dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, et puis prenez votre temps de trouver le texte.
Tu peux arrêter.
120 fois en 15 minutes, moi j'ai compris. Et j'ai dit, quelques jours plus tard, frère, et bon, ça veut dire à ne plus dire toutes les deux secondes. On avait un frère dans l'église, une autre église où j'étais pasteur, on l'appelait monsieur effectivement. Parce que quand il parlait, effectivement, effectivement. Et tous les jeunes l'appelaient monsieur effectivement. Donc quand on a une phrase comme ça, il vaut mieux se laisser corriger.
Effectivement.
Effectivement. Quelques mots de la fin. Le rôle des anciens.
Il le dit pour conclure.
Pour conclure, la première fois. Sur 36, il me reste 35 ans et 5 minutes. Les anciens dans nos églises doivent décider qui peut, qui sait et qui doit prêcher. Il y a des gens qui peuvent, qui savent prêcher, mais parfois leur vie les disqualifie. Mais il y a des gens qui prêchent, qui président dans nos églises, qui ne devraient pas. Et c'est aux responsables, bien sûr, de décider, parce que comme je disais, les gens qui arrivent, ils pensent à l'accueil, ils pensent au chant, ils pensent à la musique, ils pensent aux personnes qui participent, surtout la présidence, la prédication. Et là, on doit toujours être très vigilant. Pendant un temps, dans les milieux des frères, au début il y a 2 siècles, les frères étaient contre le ministère d'un homme, c'est-à-dire pasteur qui fait tout, jamais. Et ils ont dit, mais le balancier est à l'autre côté, c'est le ministère de tous les hommes pour prêcher, tous les hommes pour présider. Et ça, c'est faux. On doit trouver le juste milieu, c'est pas un homme qui fait tout, mais c'est pas tous les hommes qui font tout. Il y en a qui sont doués pour l'accueil, d'autres pour la présidence, pas pour la prédication, d'autres pour la prédication, et pas pour la présidence. Hein, ça existe. Mais on doit aussi nos anciens, dans nos églises, on plus rien dans l'église, pas dans notre église en particulier, mais doivent prendre des bonnes décisions. Il faut être convaincu et être convaincant. Est-ce que vous avez vu le film Discours d'un roi?
Oui.
Le père de la reine Élisabeth. Dans ce film, à un moment donné, on voit Élisabeth gamine en train de regarder la télé avec son père. Et il voit Adolf Hitler en train de prêcher sa doctrine en allemand. Pas de sous-titres, bien sûr, à l'époque. Et on voit Élisabeth qui se tourne vers son papa. Papa, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Et son père se tourne vers elle et il dit tout simplement, je n'en sais rien, mais il en a l'air vraiment convaincu. Et ça, pour moi, c'est une illustration, une citation que j'ai notée dans mes fiches. Sur les prédications, au cinéma, on peut trouver plein de choses. Il faut être convaincu de ce qu'on dit. Il faut aussi qu'on croit à la puissance de la part de Dieu et à l'œuvre de l'Esprit dans un cœur. On voit les gens, on ne voit pas les cœurs. Il faut croire que la parole est une épée. Et on doit croire que l'Esprit peut prendre même nos paroles faibles, les paroles d'un cantique, pour parler à des amis. La durée, on en a déjà parlé. Je redis ce que Spurgeon dit, chaque prédicateur doit surveiller son texte, son auditoire et sa montre. Je crois que la dernière fois j'ai dit, il doit avoir l'œil sur son texte, ses auditeurs et sa montre. Mais on doit surveiller et être sans pitié avec ceux qui dépassent, et surtout ceux qui dépassent, qui ne devraient même pas prendre la parole d'ailleurs. Pour résumer cette formation, est-ce que j'ai le résumé dans le départ? Pour citer Luc 4, on doit apporter la bonne nouvelle. Jésus-Christ cite dans Luc 4, où il lit, Ésaïe 61, annoncer la délivrance et proclamer la grâce. Quand on dit voilà ce que vous devez faire, on doit toujours dire mais le Seigneur nous donne sa grâce pour faire ce que nous devons faire. On doit avoir des explications solides, des illustrations vivantes et une application percutante. On doit à la fois nous enseigner l'esprit, nourrir l'âme, émouvoir le cœur et engager la volonté. Les gens ont besoin d'être touchés intellectuellement, sentimentalement et qui bougent pour faire des choses. Il y a quelques années, un grand prédicateur, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en Indonésie pour prêcher dans des églises. Et les pasteurs là-bas ont demandé qu'ils leur parlent de leur prédication. Ils étaient juste pasteurs, mais ils voulaient une formation de part de ce frère sur la prédication. Donc, il a expliqué en quelques séances ce que c'était la prédication. Et le traducteur a inventé des mots en indonésien. Exigisi, exposisi, organisi. Exigisi, oui. Bon, exigesse, exposer et organiser. Des mots, vous avez appris trois mots indonésiens ce soir. Et il a expliqué que le mot exposisi est surtout le mot clé. Parce qu'il a dit, ce mot-là, vous pensez, il n'a pas expliqué ça aux Indonésiens parce qu'ils ne connaissent pas le super-roi. Mais il a expliqué à des pasteurs écossais, et j'étais présent, vous pensez à une soirée super-roi. La dame, c'est souvent une dame, elle vient, elle expose sur le table de la salle à manger tous ses biens. Et elle dit, choisissez. Faites des chèques. Choisissez et vous prenez. Voilà tous les biens. Et exposivité, on expose, on prend le texte, on enseigne le texte, et on dit, voilà, sur le plan, ce que dit ce texte pour nous, ce matin, dimanche 1er décembre 2013. Au lieu de dire aux gens, prenez tout, c'est comme si on dit, hey, voilà le texte, cette partie c'est pour toi, madame, cette partie c'est pour toi, frère, cette partie c'est pour vous, cette partie c'est pour les jeunes, mais tout le monde, doit trouver son compte en écoutant une prédication. Même des autres. On expose, on étale sur la table et on dit servez-vous. Entre guillemets. mais c'est la parole de Dieu qu'on met sur la table. Et la parole de Dieu peut changer le cœur. Désolé d'avoir dépassé une minute. Je vais mettre, j'ai déjà fait toutes ces feuilles en propre, en résumé, en forme de fascicule, et je vais ajouter à la fin deux feuilles d'évaluation qui sont préparées par l'Institut biblique de Genève. Comment évaluer un prédicateur de la part d'un auditeur, des choses qu'on donne parfois à un jeune qui vient pour la première fois. On peut donner ces deux feuilles, vous écoutez le prédicateur et vous couchez. Et puis, une autre feuille un peu plus complète, l'évaluation de prédication de la part d'un ancien ou de son formateur. C'est un peu plus complet, mais ce qu'il faut cocher. Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'introduction est claire? Est-ce que la personne regarde dans l'air tout le temps? Est-ce que la personne a l'éthique? Et puis, c'est toujours dans le but de faire des critiques constructives. Donc, je mettrai ça aussi à la fin de cette particule. Trois personnes ont répondu au devoir, deuxième devoir, et je dois rendre César ce qui est de César. Une personne a parlé de texte en Christ, pour Christ, par Christ. Un texte dans Éphésiens. Quelqu'un d'autre a parlé de texte dans Daniel, l'exil, l'ordonnance, un choix, Dieu approuve le choix et la bénédiction. Et puis un autre texte, le psaume 23, ce que Dieu est pour moi, ce que Dieu fait pour moi, ce que Dieu opère en moi, ce que Dieu réserve pour moi. Quatre points sur le psaume 23, et tout le monde connaît le psaume 23. Et ça parle de qui est Dieu pour toi. Hein? On n'a pas inclus ce psaume dans la série qui est Dieu pour toi. Mais là, quatre points. Peut-être que je demanderai au frère qui a préparé ça de conclure la série au mois de. Bon, bref, je présente. Mais voilà, donc merci pour le débat et merci de votre attention.